C'est la deuxième heure de ce 1233e Sweet Home Chicago. Je vous propose une belle rencontre avec Kit Colling, musicien d'origine colombienne, adopté dès l'âge d'un an par une famille luxembourgeoise. Nous découvrirons ensemble le parcours d'un jeune homme déraciné, construit par la musique qu'il côtoie très jeune, empli de passion et de plaisir indicible de la communiquer. Guitariste, chanteur, évoluant dans un blues rock bontain, matiné de soul et de rock, et influencé principalement par B.B. King et Stevie Ray Vaughan, leader de son band, le Kit Colling Cartel, qu'on a pu voir en janvier dernier ouvrir pour Bonne et Fields à Paris. Il nous en trouve en toute convivialité une porte sur son univers que l'on ponctuera d'extraits de ses deux derniers albums. Un bel artiste qui brille par une voix convaincante et un jeu de guitare fougueux, capable également d'instants suspendus, ciselant ses propres compositions comme un orfèvre le ferait pour les plus magnifiques joyaux. Écoutez seulement Don't Worry Mama et on en reparle. Si vous ne connaissez pas encore Kit Colling, laissez-le vous surprendre et vous enchanter.
American town, abandoned as a child, he was lucky to be found. Rescued by two angels who brought him overseas. This is the story of El Gato. Growing up ain't that easy when you don't know where you belong. He had no other choice than to be brave and be strong. He faced all sorts of trouble, brought them all back home. This is the story of El Gato.
Dime de dónde viene, dime pa' dónde va. La sangre que corre por tus venas es solo una historia más. Dime quién te ha formado, dime en quién te convertirás. La magia que el gato ha contagiado es la historia que contarán.
One night he was drinking in an old smoky bar. He was taken by the rhythm of an old blues guitar. Listening to those cats play, he wanted to be one of them. This is the story of El Gato. He finally grabbed his six string and he learned how to play. The music kept him safe and kept all his troubles away. With magic in his fingers, he practiced every day. This is how he became El Gato.
Dime de dónde viene, dime pa' dónde va. La sangre que corre por tus venas, solo una historia más. Dime quién te ha formado, dime quién te convertirá. La magia que el gato ha contagiado es la historia que contarán. Dime de dónde viene, dime pa' dónde va. La sangre que corre por tus venas es solo una historia más. Dime quién te ha formado, dime quién te convertirás. La magia que el gato ha contagiado es la historia que contarán.
Now he's playing all around the world, rocking every crowd. He kept all his promises and made the angels proud. He made it on the right track with a guitar on his back.
This is the story of El Gato. Yeah, this is the story of El Gato. This is the story of El Gato.
Kit Colling, bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans Sweet Home Chicago pour la toute première fois, hein, première interview ensemble.
Oui, bonjour Marc, merci de m'inviter, ça fait très plaisir.
Merci, ça fait déjà quelques années que tu te produis, mais j'ai eu l'occasion de te voir qu'une seule fois en live, c'était à l'occasion de la première partie de Bonne et Fields en janvier dernier à Paris, dans cette belle salle du New Morning. Je voulais savoir, en guise de préambule, Kit Colling, quel souvenir tu conserves de ce concert éclair, hein, c'est vrai que ça a duré assez peu de temps.
Bah écoute, pour moi j'ai habité à Paris quelques années et le New Morning ça a toujours été une salle mythique, hein. J'ai vu des très grands artistes là-bas. Et le dernier, je crois que c'était John Scofield.
Oui.
Et donc, du coup, se retrouver à jouer sur une scène si légendaire, enfin, j'avoue qu'il y avait de la pression quand même. Il y avait de la pression, ouais.
Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as créé cette collection avec Bonnefield? Tu le connaissais précédemment?
Alors, Bonnefield, on s'était déjà croisé plusieurs fois dans les jams à l'époque où j'étais encore sur Paris, Caveau des Oubliettes, je me souviens, ça c'était la première fois où je l'ai rencontré. Et après, la connexion s'est plutôt fait à travers Dixie Frog, le label Rock'n'Roll, qui justement m'avait proposé, plutôt informé que Bonnefield cherchait une première partie, et il m'a mis en contact avec Nadège, et voilà, ça a bien matché tout de suite, et du coup on s'est mis d'accord à faire ça ensemble.
Mais oui, et puis ça a donné la belle soirée qu'on a vue. Dans cette interview, Kid Colling, on va évoquer ton parcours, ton actualité bien sûr, mais d'abord peut-être revenir sur tes influences et ta mise à la musique, entre guillemets. Donc tu es né en Colombie et tu as été adopté très jeune, je crois, par un couple du Luxembourg. Tu avais un an, donc aucun souvenir de ton pays natal, hein, fatalement. Mais est-ce que tu y es retourné depuis en Colombie?
C'est exact, j'ai aucun souvenir de ce pays-là, et là où j'ai grandi, il n'y avait aucun Colombien. Donc je suis d'origine latino avec une éducation européenne, j'ai envie de dire. Et je suis retourné en Colombie, effectivement, en 2017, pour la première fois. Et ça s'est fait, le hasard fait bien les choses parfois. J'ai rencontré un groupe colombien qui tournait à travers l'Europe et s'était arrêté au Luxembourg. Et le hasard a fait que je les ai dépannés avec de la backline pour leur concert. Et du coup, on a sympathisé et ils m'ont invité à venir en Colombie. Et j'ai toujours dit, un jour, j'aimerais bien découvrir mon pays. Mais voilà, parfois on dit les choses, un jour, et il ne se passe jamais rien. Et là, c'était vraiment l'occasion où je me suis dit, OK, ça c'est un signe. Ça veut dire que c'est maintenant où je dois y aller, maintenant où j'ai rencontré cette personne-là. Qui m'ont accueilli chaleureusement en Colombie en 2017.
Voilà, un bon retour au Bercail. C'était sur Bogota ou sur Popayane ou un autre endroit?
C'était sur Bogota. Alors, ouais. J'y suis retourné deux fois. Donc, la première fois, c'était en 2017. J'ai fait un petit tour à travers toute la Colombie. On a commencé par Bogota, évidemment. Après, on est allé vers le nord, Cartagena et Santa Marta. On retournait vers la région du café, etc. Pour moi, c'était important de découvrir mes origines. Voilà. Et je suis retourné une deuxième fois, c'était en 2022. Pareil, j'ai rendu visite à mon ami, Daniel, qui était devenu mon ami entre-temps, et qui a aussi enregistré sur le dernier album, qui chante le refrain sur El Gato.
Yes.
Et je suis retourné justement pour enregistrer un clip vidéo qui sortira au mois de mai. Voilà.
Il y a un autre artiste colombien qui, lui, fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, du côté du Mississippi. Je ne sais pas si tu connais ce garçon, il s'appelle Carlos Elliott Jr.
Oui, j'ai déjà entendu parler, mais je ne savais pas qu'il était colombien, en fait.
Ouais,
ah ouais.
Ouais.
Ok.
Et effectivement, il partage sa vie entre sa patrie natale et puis sa patrie d'adoption, les États-Unis. Il est venu en France il n'y a pas très longtemps. C'est la fin 2023. Revenons à toi, bien sûr, Kid Colling. Est-ce qu'il y a eu dans ton entourage familial des prédispositions pour te diriger véritablement vers un métier artistique?
Honnêtement, c'est vraiment la question que je me pose souvent et ce qui m'a poussé un petit peu à aller voir en Colombie, parce que dans ma famille, à la base, non. Et c'est paradoxe parce que mes grands-parents du côté de ma mère, qui nous ont éduqués, ils vivaient avec nous, eux, ils étaient musiciens professionnels. Ma grand-mère, elle enseignait le piano quand elle était plus jeune, et mon grand-père, il jouait dans l'orchestre national de Belgique, aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il jouait du violoncelle. Cela dit, je ne les ai jamais entendus ou vus jouer live devant moi, et même chez nous, c'est un peu triste à dire, mais le piano, il ne fallait pas le toucher parce qu'il avait une certaine valeur sentimentale. Et voilà, on ne nous a jamais rien appris, et tout de même, je pense que par les choses qu'ils écoutaient, je me souviens de mon grand-père qui regardait Arte et qui écoutait des concerts là-dessus, je pense que il y a quelque chose qui s'est imprégné quelque part en moi et qui est resté, quoi. Et que j'ai redécouvert par moi-même plus tard quand j'étais adolescent.
À l'adolescence, oui, tu as découvert du blues, c'était vers l'âge de 16 ans. Un endroit qui s'appelle La Cave, j'ai lu ça quelque part. Et notamment, c'est là que tu as entendu pour la première fois un album de Luther Allison intitulé Live in Montreux.
Oh, the hit! keep on fighting among themselves. They keep all the chicks, I tell you. They keep on fighting among themselves. You don't want another chick in the back.
Album de Luther Allison intitulé Live in Montreux. C'était ça le déclic ?
Ouais, clairement. Alors je vais te faire un aveu. cet album-là, je l'ai volé de la cave. j'ai piqué du DJ parce que à l'époque, en fait, si tu n'avais pas de parents qui écoutaient vraiment une certaine musique, ouais. T'avais pas vraiment accès à la musique comme on l'a aujourd'hui. Donc les groupes, fallait les connaître. Donc si tu n'avais pas quelqu'un dans ta famille qui écoutait du blues ou du rock, t'avais aussi aucun CD qui traînait. Et moi, à mon époque, dans les années 90 jusqu'à 2000, j'ai grandi avec ce qui passait un petit peu à la radio, à la télé, avec MTV, etc. Mais la cave, ça a été l'endroit où j'ai été pris d'assaut par le blues, parce qu'il passait pas mal de ce genre de musique. Et effectivement, Luther Allison, Live in Montreux, c'était ce disque qui m'a fait halluciner quand j'ai entendu. Et du coup, il fallait que je l'emmène chez moi pour écouter ça.
J'imagine très bien. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, est-ce que par la suite tu l'as conservé ? Est-ce que tu as acheté d'autres albums de Luther Allison ?
Ah oui, carrément, j'ai acheté d'autres albums et c'est marrant parce que sur un des albums, je ne me souviens plus lequel, j'ai étudié à l'American School ici à Paris, qui est le maître, et entre autres, un des professeurs principaux, c'est Peter Giron. Et Peter Giron, c'était le bassiste pendant un certain temps de Luther Allison. Je me retrouve à apprendre la musique avec cet homme-là.
Ah, ça c'est génial. Les endroits où tu t'es produit à tes débuts, que tu as commencé à monter sur scène, c'était au Luxembourg essentiellement, j'imagine.
Oui, c'était quand j'ai commencé à me produire, c'était parallèlement quand j'ai quitté le Luxembourg pour aller à Paris pour apprendre la musique parce que j'étais autodidacte. Et à cette époque-là, j'avais déjà monté un groupe qui s'intitulait Outsider's Mood. Et c'était un peu la folie des grandeurs parce qu'on était genre 11 sur scène, j'avais les images de B.B. King, Albert King et compagnie en tête. Donc j'avais une section cuivre, etc. On était juste des copains. J'avais contacté juste des personnes que je connaissais vite fait. Et on commençait à se produire dans les villages autour et dans les petits bars. Et c'est seulement à partir de 2011-2012 où j'ai commencé à jouer un peu plus avec des gens de la scène locale. Entre autres, chez nous, on avait Dave White ou Fred Barreto. Fred Barreto qui joue avec Archie Lee Hooker.
Ce sont des gens qui t'ont aidé à commencer à bâtir ta carrière, c'est ça en fait?
Oui, en fait, ce sont des gens qui jouaient tout simplement. Qui m'ont pris avec dans leur groupe. Enfin, tu sais comment ça se passe. On débarque au jam session, on joue et puis les gens qui sont déjà établis reconnaissent que voilà un nouveau et ils t'acceptent en tant que musicien.
Voilà.
Et dès qu'il y a un remplacement à faire quelque part, on t'appelle, tu commences à remplacer, tu fais bon boulot, tu commences à jouer avec eux et puis ça tourne. Et comme ça, tu rentres un peu dans le milieu, quoi.
Kid Colling, toujours par rapport à tes débuts et puis surtout pour parler de tes influences qui semblent aller vers les héros du blues rock. On sent que dans l'orchestration de ta musique, il y a des réminiscences de B.B. King, mais aussi de Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan, ou même Gary Clark Jr., plus récemment dans l'histoire du blues. Il y a peut-être aussi du Larry Carlton ou du Robin Ford. Tu évoquais aussi John Scofield, c'est un petit peu de la même veine par moment dans ton jeu de guitare. Qui sont les artistes qui ont véritablement influencé tes débuts ?
Alors, mes débuts, c'est clair et net. Pour moi, c'est B.B. King et Stevie Ray Vaughan. Ça restera les deux guitaristes qui m'ont influencé le plus. Je me souviens, quand j'ai découvert Stevie Ray, j'ai poncé tous ses albums, j'ai relevé pas mal de cela. Et B.B. King, carrément. Après, mon jeu a bien sûr évolué, surtout quand je suis allé vers Paris et j'ai vu beaucoup plus de jazz. J'ai commencé à m'orienter plus vers des musiciens comme Larry Carlton, que j'ai eu la chance de faire sa première partie.
Ah, génial, oui.
Et Robin Ford, c'est des guitaristes qui ont un petit peu pour moi le juste milieu entre les phrasés clichés blues et un côté jazzy, quoi, qui le fait de suivre l'harmonie. Mais effectivement, avec le son aujourd'hui que je recherche, je retourne un petit peu aux roots et je cherche quelque chose un peu plus de un peu plus rock, un peu plus agressif.
Oui, justement, on va en parler de toutes ces influences et puis de ce que ça fait sur ta musique, parce qu'il faut bien parler de composition. On va évoquer tes trois albums tout à l'heure. Et je voulais savoir, tu viens de parler d'une première partie de Harry Carlton, tu as aussi fait la première partie de Taj Mahal, Keb Mo, Alamo et John Mayall. Est-ce que tu as pu avoir des échanges privilégiés avec toutes ces légendes du blues?
Ouais, carrément. Alors, ces personnes-là, c'était des rencontres juste merveilleuses pour moi. Ça a commencé avec John Mayall, justement. C'était ma toute première rencontre. Et c'est un grand homme, hein, c'est une légende. Et on s'est parlé quand on était justement au catering en train de se faire une assiette chacun. Et on a échangé un petit peu sur ce qu'on faisait. Bah, j'étais encore assez timide, mais il était vraiment très, très sympa avec moi. Et je me souviens quand je suis descendu de la scène, après avoir fait la première partie, en plus je l'avais fait toute seule, il m'avait regardé et il me dit « That's how you gotta do it
». Ouais. Oui, alors ça...
Oui. Larry Carlton aussi. Larry Carlton, magnifique. Quelle humble personne. On a parlé de tout et de rien, de matériel, de parler de son copain Robin Ford aussi, qui était passé la semaine dernière chez lui. Il habite à Nashville, Larry. Enfin, ça a toujours été des grands moments de pouvoir rencontrer ses idoles comme ça. Pareil pour Kep Mo, je suis un grand fan de Kep Mo et Taj Mahal aussi, mais surtout Kep Mo, et de pouvoir échanger avec ces personnes et de se rendre compte que c'est des personnes très humbles et très gentilles et très ouvertes, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec.
C'est vrai, alors ça c'est tout à fait vrai ce que tu dis. De toute façon, quand on parle, quand on échange avec des bluesman, on va dire dans 99% des cas, on a un magnifique souvenir surtout d'une personne humble et sympathique, enfin voilà, c'est ce qui transparaît dans la plupart des échanges. Tu es parti à la Nouvelle-Orléans à un moment donné ta vie, Kid Colling. Quel impact est-ce que ça a eu sur ta vie musicale et puis ta vie tout court, ce voyage?
La Nouvelle-Orléans, franchement, ça, je pourrais en écrire un bouquin, en fait. Je suis parti là-bas à une époque qui était vraiment pas facile pour moi. Je venais de sortir d'une relation assez longue mon papa venait de nous quitter parce qu'il a été très malade, il luttait contre le cancer. Et du coup, pour moi, il fallait que je m'évade et voilà, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris ma guitare tout court, une valise et je suis parti. Un visa de 3 mois et voilà, j'ai commencé à la Nouvelle-Orléans sans trop savoir où aller et j'y suis resté coincé dans les bons sens du terme. Parce qu'au bout de 3 jours, j'ai rencontré Danny Alexander, un musicien qui m'a pris sous son aile, un guitariste local qui joue beaucoup et qui joue entre autres aussi avec les musiciens de Tab Benoit, ces derniers qui nous ont rejoints aussi sur scène. Je sais pas, la Nouvelle-Orléans, j'ai fait tellement de belles rencontres et tellement de choses, j'avais aucune attente et il y a tout qui m'est tombé en fait dessus. Et je pense, j'en retiens surtout un échange avec ces personnes. Un échange vraiment très très intéressant parce qu'on parle quand même le même langage, mais ce langage est né là-bas. Donc je me retrouve à jouer un petit peu leur musique sur leur territoire. Et de voir qu'ils acceptent ce que je propose et ce que je fais, ça a été très, très enrichissant pour moi.
Ben oui, une vie multiculturelle à la Nouvelle-Orléans avec toutes les musiques qui se rassemblent et on en parle souvent dans les interviews. C'est peut-être la ville aux États-Unis où les barrières entre les styles musicaux n'ont aucune valeur, en fait. On peut jouer du jazz, du blues, du rock'n'roll, de la country, que sais-je, et ça reste de la musique. Tout le monde est musicien là-bas.
Tout le monde est musicien et tu croises des gens avec qui tu as joué. Enfin, là-bas, c'était musicien. Il y a du boulot, ça c'est clair. Et pour moi, la Nouvelle-Orléans, c'est une musique qui transpire tous les clichés possibles de la musique ou de ce qu'on s'imagine, par exemple, autour du jazz. C'est vraiment, tu sors à minuit d'un restaurant, tu vas entendre au loin le son d'une trompette et un gars qui répète ses standards sous un lampadaire, quoi. C'est vraiment ça.
Bed. You got to face the day. And I'm running on fumes.
Si on revient sur ta discographie, il y a ton premier EP qui sort en 2015, ça s'intitule Tomorrow's Far Away. Tu y joues 5 compositions avec Ernest Foy au clavier, Wataru Tagheri à la basse et Yannick Bollman à la batterie. Quel était l'accueil de ce premier disque, Kid Colling?
Alors, pour moi, ce premier disque, c'était le moment de sortir quelque chose et je l'ai sorti que au Luxembourg. Je n'avais pas vraiment de label pour sortir cela. Et du coup, voilà, c'est resté un disque assez interne. Ça m'a ouvert les portes, en fait, pour travailler plus tard avec Aline Barnes, qui, elle, est établie en France. Et la personne avec qui j'avais sorti le disque connaissait justement Antoine Chuchani, qui à l'époque s'occupait d'Aline Barnes. Et donc voilà, c'était mes premiers pas, mes premières compositions. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer par la suite.
C'était un album carte de visite, en quelque sorte, pour aller jouer à droite,
c'est
à gauche.
Exact. Ouais. Ouais,
et ensuite, il y a un second album en 2017 qui s'appelle In the Devil's Court, enregistré à Bordeaux, qui contient 11 titres, dont 10 compositions, et puis une reprise de B.B. King. Et cet album rassemble justement une autre équipe de musiciens. Il y a Vincent Charrue au clavier, David Franco à la basse et Florian Ponce à la batterie. C'est quoi, selon toi, cette cour du diable que tu évoques?
La cour du diable, pour moi, c'est un petit peu cette société dans laquelle on est enfermé avec ses règles qui jouent et qui nous pousse parfois à faire des choses dont on n'a pas vraiment envie. On n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe autour de nous et voilà. Et parfois, on se sent quand même impuissant à changer certaines choses. Et donc, du coup, cette cour du diable, c'est le fait d'en sortir, quoi.
C'est toujours intéressant de parler du diable parce qu'ici, on est sur Radio 666. Hein,
ouais.
Sweet Home Chicago, c'est sur The Devil's Radio. Et puis dans ce disque-là, il y a également un autre titre qui s'appelle « Don't worry mama ». Et là, tu évoques ta mère biologique, la mère qui t'a mise au monde. Et je voulais savoir, le fait de ne pas la connaître, est-ce que c'est une question qui te hante particulièrement ?
C'est difficile à répondre, cette question. En fait, je pense que l'adoption tout court, tout ce processus, c'est quelque chose qui, en moi, me hante quand même. Quand je suis retourné en Colombie, j'ai pas essayé de retrouver ma mère. Je voulais d'abord, peut-être aussi pas à cause que j'avais peut-être un peu peur de ce qui pourrait m'attendre, mais je voulais d'abord voir mes origines. Mais je pense que le fait d'être adopté, d'avoir été en quelque sorte abandonné étant bébé, ça crée quand même un certain traumatisme émotionnel, je dirais. Et donc, il y en a qui arrivent bien, chez qui ça se sent pas, et il y en a d'autres où on voit qui en souffrent carrément. Dans mon cas, je dirais que ça a laissé quand même une cicatrice. Je le vois de par mon parcours, quand je vois un petit peu comment j'ai établi mes relations. Je suis quelqu'un qui s'attache pas vraiment. Enfin, j'ai du mal à m'attacher à d'autres personnes, et je pense que ça, c'est lié à cela.
Et malgré ça, c'était un acte d'amour de la part de tes parents adoptifs.
Oui, carrément. Oui. Mmh. Oui, absolument. Oui, absolument.
I feel so strange. I feel so different. So many doubts. So many questions. Where am I from? Where do I go? Somebody tell me, how would I know? I was looking up to the stars, asking why we had to part. Even though life has smiled at me, I feel a crack deep in my heart. I try to lay down this burden, but there's nothing I can do. And I guess we'll never meet, but I'm sitting here singing a song. If you think of me as your baby I used to be, I try to ignore, but it's harder as it seems. Cause sometimes I think I hear you whisper in my dreams. I try to lay down my burden, but it's nothing I can do. And I guess we'll never meet, but I'm sitting here singing this song to you. Sometimes when I'm lonely,
Pour revenir sur ta discographie, et puis actuellement, donc, tu sors ton troisième album qui s'appelle Living on the Wild Side, qui contient 10 titres, toutes des compositions originales. Et justement, si on évoque ces trois albums, quasiment que ton propre travail, c'est important pour toi de raconter tes propres histoires, Kid Colling ?
Oui, je pense, parce que c'est ce qui m'identifie en fait. J'aime bien raconter mes histoires, j'ai beaucoup voyagé, j'ai échangé avec pas mal de personnes et j'aime bien échanger là-dessus. Et c'est peut-être aussi quelque part une façon de faire de l'autothérapie peut-être aussi.
Oui.
En tout cas, ça me fait du bien d'ancrer des histoires, de raconter cela avec un fond musical. Après aussi, pour moi, il est important de composer parce que je ne vois pas trop l'intérêt de répliquer quelque chose qui a été déjà fait.
Même en concert ?
Ouais, même en concert. Alors, si, bien évidemment, en concert, on s'amuse parfois à mettre l'une ou l'autre reprise parce qu'on adore ça. Moi j'adore, j'adore jouer les blues standards. Enfin, j'ai commencé avec ça, je viens de là, je les connais.
Oui.
Par contre, par exemple, faire que des albums avec que des standards de blues, je ne trouve ça pas très très intéressant parce qu'il y en a tellement.
Mmh.
Et puis, ils se ressemblent au final, à la fin, beaucoup de choses se ressemblent. Donc, je préfère avoir ma propre identité musicale, mais de bien souligner d'où je viens.
Tout à fait, et ça s'entend d'ailleurs malgré les noms qu'on a égrenés tout à l'heure qui constituent tes influences. J'ai l'impression qu'au fil des enregistrements, j'ai pu écouter ton dernier album également, c'est en passe de devenir un son particulier et tu es en train de créer ton propre univers en fait.
Oui, c'est ce que je recherche justement. Comme je disais, la composition pour moi, c'est comme faire la cuisine. Tu crées ta propre recette basée sur des ingrédients que tu aimes bien. Alors pour moi, j'ai bien du blues, j'adore ça, c'est ma musique préférée. Mais j'ai écouté beaucoup de rock, j'ai écouté aussi du rap durant mon adolescence. Je suis un grand fan de groupes comme par exemple Rage Against the Machine, parce que j'ai grandi dans les années 90. Voilà, et je pense que dans ma musique, tout cela va se refléter un petit peu dans ce que je fais. J'aime le songwriting à la Cap Mo, la façon dont il joue avec les mots, j'aime beaucoup cela. Donc, je mélange un petit peu tout et le tout sur un fond bluesy, quoi.
Kid Colling, je lis dans ton dossier de presse à propos de ce nouvel album, je cite, « La recherche d'un son, la volonté de garder un esprit blues sans tomber dans le cliché, d'y ajouter une énergie rock et d'enrober le tout dans du songwriting, définit l'identité sonore de ce nouvel opus. » Donc, quelle est, selon toi, la démarche à adopter pour se diriger vers la recherche de l'originalité et acquérir une véritable identité artistique ? Est-ce que ça passe seulement par les compositions ?
Ça, je pense que c'est à chacun de voir qu'est-ce qui le définit. Par exemple, il y a des personnes qui sont peut-être plus axées sur le son, d'avoir un certain son, que d'avoir maintenant de l'harmonie dans sa musique, par exemple. Il y a d'autres personnes qui préfèrent évoquer des thèmes beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus sensibles, et qui s'apprêtent plus à jouer des choses un peu plus lentes que d'autres. Je pense que l'important, c'est de se rester propre à soi-même.
Oui.
Et ce qui va définir après la personne dans son songwriting, c'est un petit peu les influences qu'elle écoute. Donc forcément, si tu n'écoutes qu'un certain type de musique, tu risques très fortement de sonner comme telle personne, en rajoutant ta touche évidemment. Mais si tu écoutes un peu de tout et que tu mélanges, ben voilà, le champ est beaucoup plus vaste.
Alors la démarche vers une véritable identité artistique, est-ce que c'est un chemin qui a une fin ou est-ce que c'est un chemin qui va accompagner toute une vie ?
Ah, je pense que ça, c'est un chemin qui va accompagner toute une vie. Hein.
Ouais.
Et je pense que c'est un chemin aussi qui va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Il faut un petit peu voir aussi pourquoi et ou pour qui est-ce qu'on fait de la musique. Tu vois aussi un petit peu ce qui se passe avec les grands, grands artistes légendaires. Tu prends un groupe comme, je sais pas moi, AC/DC.
Ouais.
Par exemple, tu vois, tout le monde a envie d'entendre les vieux morceaux, quoi. Et ils sont connus pour cela. Les nouveaux morceaux ont moins d'impact que ce qui a été créé auparavant. Il y a beaucoup de gens qui parlent, par exemple, de Miles Davis. Où, pour eux, c'est Kind of Blue. Ou peut-être avec le quintet, il y avait Herbie Hancock et Ron Carter, mais ces genres de musiciens te diront toujours que voilà, il faut évoluer, il faut aller vers l'avant et essayer de se renouveler, de se retrouver, quoi.
Ouais, ça nous rejoint sur un autre débat qui pourrait être connaître d'une part et reconnaître de l'autre, et c'est vrai que beaucoup de gens dans les publics, les fans même de certains artistes qui ont déjà du vécu, demandent des classiques mais sont assez réticents en fait à tout ce qui peut être composition nouvelle. Enfin, tu évoques certains artistes, c'est valable avec plein de gens, compris en chanson française, par exemple.
Oui, clairement. Mais ça, c'est à chacun de voir comment il va faire son chemin et il faut voir comment va réagir le public. Tu vois que tout le monde l'a essayé à un certain moment donné dans sa carrière, même à B.B. King, tu écoutes certains albums, il y en a qui sont vraiment, où tu vois qu'il est en train d'expérimenter et de rechercher un petit peu quelque chose de différent, mais ça n'a pas été forcément ce qui a été retenu que dans les greatest.
Et malgré tout, ça reste du B.B. King, c'est vrai. Pour avoir écouté un petit peu la discographie de B.B. King, il est passé par tellement de périodes. Il me revient en mémoire l'album qu'il avait sorti juste après Thriller de Michael Jackson, où il reprenait exactement la ligne de basse de Billie Jean, et pour en faire un blues finalement. Ouais. C'était quoi, un an ou deux après sa sortie. C'est pas un disque qui est resté dans les mémoires, bien entendu, mais c'était un effet de mode. Mais voilà, les grands artistes sont ceux qui surfent au-dessus des modes et des époques, non ?
Oui, je pense aussi, carrément. Et puis, c'est ce qui va définir un petit peu l'identité d'un artiste, qui va faire qu'on va reconnaître. Je trouve ça dommage quand on essaye de recopier d'être le nouveau Jimi Hendrix ou d'être le nouveau Stevie Ray. Voilà, parce que ces personnes, elles ont déjà laissé un héritage tellement grand.
Bien sûr.
Voilà, alors je dis pas que c'est pas cool de faire des reprises, hein, c'est bien, moi aussi j'aime bien en faire. Et j'ai commencé par ça, justement, Stevie Ray Vaughan, petite anecdote. C'était la raison pour laquelle je me suis acheté une Stratocaster.
Ah oui.
C'est la raison pour laquelle j'ai joué la Stratocaster et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai arrêté de jouer de la Stratocaster.
Après avoir découvert peut-être Larry Carlton, justement, et passé de Solid Body au Hollow Body, par exemple.
Oui, carrément. Bah, Larry Carlton est la raison pourquoi j'ai une 335 à la maison. Mais à un moment donné, il était temps pour moi de me détacher de tout cela. Je l'ai toujours, hein. J'ai toujours ma Strat, ma S, mais d'essayer de partir ailleurs, quoi, et de se trouver soi.
Kid Colling, si on revient sur une chanson de ton dernier album qui s'appelle Living on the Wild Side, ça parle de liberté, de voyage, mais aussi de transgression, et puis de la vie qu'il faut vivre absolument à l'instant présent. Et tu lui dis notamment, mieux vaut m'aimer sauvagement ou pas du tout, ou encore nous faisons ce que nous voulons et non ce que nous devrions. Ça mène à une question, Kid Colling, malgré ton jeune âge, est-ce que tu as déjà l'impression que la vie file à toute vitesse et qu'il faut en goûter tous les plaisirs ? D'ailleurs, quel âge as-tu ? On n'en a pas parlé.
Ouais, c'est très gentil de me dire ça. Bah, je ne suis plus si jeune que cela. Hein. Je viens de célébrer mes 40 ans.
Oui, et ben, si, tu restes jeune.
Ouais. Mais oui, non, carrément, là, la vie passe à toute vitesse pour moi. Living on the Wild Side, c'est issu du dernier concert que j'ai donné à la Nouvelle-Orléans quand je joue avec Danny Alexander. Juste avant de prendre l'avion, je me retrouve à jouer à une concession de Harley Davidson aux États-Unis avec l'équipe. Justement, il y avait le bassiste de Tab Benoît, Corey Desplechin, qui joue avec nous aussi. Et voilà, c'était un truc énorme avec une fête américaine comme on la connaît dans les films, quoi, avec des battles de motos entre eux, qui a la plus grosse bécane, la plus grosse sono.
Bah oui, on voit ça sur le clip, hein, effectivement.
C'est inspiré de cela, quoi. Et carrément, je me suis inspiré de ce style de vie et de cette ambiance, justement, pour évoquer ce message. Vivre un petit peu au jour le jour, c'est ce que j'ai toujours fait, mais je le pense vraiment que le temps passe vite à une toute allure, surtout quand tu te rencontres, quand tu commences à perdre des proches. Tu te rends compte que tout peut se terminer du jour au lendemain et tu l'as même pas vu venir. Et donc, ce serait triste. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça triste si quelqu'un nous quitte et je sais pas, n'a pas eu la vie qu'elle aurait voulu avoir ou ne s'est pas donné certaines libertés.
Et là, justement, dans ce clip, moi, j'ai retrouvé quelques références, par exemple, à Easy Rider, mais également le titre lui-même, Living on the Wild Side. Est-ce que c'est un clin d'œil à Lou Reed avec Take a Walk on the Wild Side ?
Ah, non, du tout.
Non, du tout, d'accord.
Leather jacket, blue jeans, muddy rock boots. Hanging with the pack while looking for the next route. Fast life, fast drive, your mama says I'm not good.
We do what we want and not what we shoot.
I
I got the key and I'm ready for the highway. You won't tame me cause I'm gonna ride it my way. Nothing you can do, nothing you can do, nothing.
Catch him if you can.
But you won't see me coming.
Freedom, oh my mind. Baby, take my hand if you wanna ride. No one will trap my spirit in the cage cause I'm living on the wild side.
Living on the wild side.
Meet me at the pines on the northern skies where the stars shine bright. No one will trap my spirit in the cage cause I'm living on the wild side.
Living on the wild side.
Hot wheels keep those engines running. Babes are dancing on the floor, keep that guitar strumming. Great boots, rock blues, welcome to the party.
We spent the night out till early in the morning.
Living the moment, there's no time for regrets. Jump on your bike and ride into the sunset. Turn your engines on.
Let's get it, get it on.
Better love me wild or not at all.
Freedom, oh my mind. Take my hand if you wanna ride. No one will trap my spirit in the cage cause I'm living on the wild side.
Living on the wild side.
Meet me at the pines on the northern skies where the stars shine bright. No one will trap my spirit in the cage cause I'm living on the wild side.
Kid Colling en live, c'est en fait le groupe Kid Colling Cartel, hein, on est d'accord.
Oui, ouais.
Est-ce que tu reprends parfois des titres d'autres artistes? On parlait du plaisir que tu as parfois à faire des covers, mais ça va plutôt être quoi, Stevie Ray Vaughan, B.B. King ou encore d'autres?
Non, alors qu'est-ce que je reprends souvent en jouant? J'aime bien, j'adore reprendre If Trouble Was Money de Gary Clark Jr.,
ouais.
Qui est aussi un cover de Albert King en fait, mais... En fait, tu vois que tout est mélangé parce que il se base là-dessus sur cette façon de jouer à la Magic Slim. Et donc moi j'adore ça. Donc j'adore ce morceau, j'adore le jouer. S'il y a la place pour le mettre dans le set, j'aime bien le mettre. Et j'aime bien jouer aussi Born on a Bad Sign de Albert King. J'aime bien le faire un petit peu plus groovy, on les joue à notre sauce. C'est ça qui est bien avec les standards, c'est que tu peux le jouer à ta façon, quoi.
D'ailleurs, John Mayall, qu'on citait tout à l'heure, on a fait une très très belle version aussi de ce morceau-là.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de partager ta musique en live avec les gens?
C'est un échange d'énergie, carrément. C'est vraiment, c'est ce que je préfère le plus en fait, c'est de dégager une certaine énergie et de sentir l'énergie du public, et en fait il y a cet échange qui se fait et ça crée un moment unique, tu peux vraiment le sentir sur scène. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre un groupe qui est peut-être un peu trop statique sur scène. Si le groupe ne dégage rien, s'il y a rien qui s'en dégage, aucune émotion, ça n'ira pas sur le public. Le musicien ne doit pas être même pas vraiment virtuose ou être le meilleur guitariste du coin. Mais c'est l'originalité qui compte, et je pense que quand moi je vais voir des artistes, si eux ils sentent quelque chose sur scène, ben moi je le ressens aussi, et je pense que c'est ce qui me plaît aussi dans la musique. Si le public sent quelque chose sur scène quand je joue, c'est parce que moi je le ressens.
Est-ce que c'est la différence entre concert et spectacle?
Ça c'est une bonne question. Concert ou spectacle, on peut le voir comme ça. Après, un concert est un spectacle, mais il y a une façon aussi de mettre les choses en place. Je pense que avec spectacle, parfois on voit des shows qui sont rodés au millimètre près, où chaque mouvement est calculé, et Voilà, ça, je trouve ça moins original. Mais cela dit, je trouve qu'un bon concert doit aussi avoir un minimum de spectacle.
Très bien résumé, oui, effectivement. Tu produis sous le nom de Kid Colin Cartel. Donc, pourquoi ce nom et comment est-ce qu'il t'a été donné, ce surnom de Cartel? Ça évoque Medellin, ça évoque tes origines colombiennes, bien sûr.
Eh bien, alors à l'époque, je jouais avec, comme je l'avais dit tout à l'heure, je jouais avec Dave White, qui est un harmoniciste qui vient de Floride, qui jouait beaucoup au Luxembourg, et c'était mes premiers pas au Luxembourg dans la scène de blues. Je commençais à jouer un petit peu dans les bars et tout. Et lorsque j'ai fait mon premier concert avec lui, je remplaçais justement Fred Barreto, qui joue avec Archie Lee. Des voix, il se retourne vers le groupe et il dit comme ça, « We need a name for the kid. » Donc, il voulait me donner un nom. « We need a name for the kid. » Et moi, « Oh !» Kid Colin, that's great, parce que Colin, c'est mon nom de famille. Mm-hmm. Et donc, yeah, Kid Colin, he's the new kid on the block. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit sur le premier album ce morceau qui s'intitule The New Kid on the Block.
Mm-hmm, d'accord. Et Cartel, ça t'a jamais posé de problème à la douane quand tu as voyagé pour aller d'un pays à l'autre pour aller...
Bah, sur mon passeport, heureusement, il ne fait pas marquer Cartel. Mais j'ai réfléchi un petit peu quand même. Mais le truc, c'est que c'était carrément un clin d'œil à mes origines colombiennes. Mais voilà, nous, on est dealers de bonne musique.
Ça, c'est très, très bien résumé là encore. Tu t'es produit au Luxembourg, en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, même en Estonie, puis aussi aux États-Unis. Quels sont les pays qui accueillent le mieux ta musique, selon toi?
Pour moi, là où j'ai eu vraiment un très, très, très bon retour, c'était en Allemagne, en Lituanie aussi. C'était cool, les deux concerts qu'on avait donnés là-bas. Et puis, les États-Unis, hein, ils sont très ouverts quand on joue bien. Enfin, ils apprécient ça énormément. Ouais.
Quels sont tes meilleurs souvenirs de concert, Kid Colin?
Mes meilleurs souvenirs de concert, je pense que ça restera la première tournée que j'ai faite juste avant le Covid. C'est déroulé en Allemagne. Et donc, c'était juste toute une aventure, quoi. Je veux dire, la première fois où tu pars avec tes copains, j'ai envie de dire, avec qui tu fais de la musique, où tu pars et tu te retrouves à jouer dans des endroits parfois improbables. Ouais. Jouer dans un bunker en Allemagne. Mais ouais, carrément. Mais c'est des choses, quoi. C'est des histoires, en fait. Et c'est justement ça qui alimente après ton songwriting aussi. C'est les choses que tu as vécues. Je pense qu'il est important quand on écrit ou voilà, quand on raconte des choses, de se laisser inspirer. Et quand on est curieux et ouvert, ça aide beaucoup. Donc, carrément, la première tournée en Allemagne, ça. Et comme concert, je garderai en tête aussi la Lituanie, justement. Ils ont un festival qui s'appelle le Blizio Naktis, qui veut dire la nuit du blues, qui était aussi juste fantastique de par sa coulisse à côté d'un lac, et c'est vraiment une ambiance été, enfin, fantastique.
Justement, ça nous amène naturellement à la question suivante, Kid Colin. Quels sont tes rêves, dans le sens où est-ce que tu voudrais jouer et avec qui?
Écoute, moi, mon but à moi, c'est quelque part, c'est de jouer le plus possible, de jouer dans des endroits, dans de chouettes endroits, de suivre un petit peu les gens que moi je suis. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile, je trouve, de tourner dans de bonnes conditions. Si tu joues avec des bonnes personnes, évidemment, il y a toujours cette question d'argent qui joue un rôle, quoi. Et donc, ça complique un petit peu les choses. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me botte dans la musique, c'est vraiment de jouer et de voyager un maximum. Dès que j'ai une proposition de pouvoir quitter, de pouvoir jouer quelque part, je suis preneur. Mmh. Et maintenant, avec qui? J'ai pas forcément de pays en tête, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui aime l'aventure et j'aime vraiment découvrir cela, quoi. Donc là, le dernier concert que j'ai fait à l'étranger, c'est juste avant la naissance de mon fils. D'ailleurs,
félicitations.
Merci. C'était toute une histoire. Ma compagne est allée à l'hôpital le jour où j'ai joué le concert, mais j'étais en Turquie. Donc,
D'accord.
Ouais. Je suis revenu le lendemain, juste à temps.
Question traditionnelle, Kid Colin, qui arrive à la fin de chaque interview. Quels sont tes projets actuels? Le disque est en train de sortir, bien sûr, le promouvoir sur scène, on l'imagine. Il y a un clip qui accompagne l'un des titres. Tes autres projets pour 2024, 2025, ça serait quoi?
Pour 2024-2025, j'aimerais bien jouer un maximum possible. Bah là, évidemment, on est en train de voir ce qui est encore faisable pour cet été. Mais pour 2025, si je pouvais arranger une petite tournée, une série de concerts, ce serait cool. Je suis toujours en recherche de partenaires pour faire ce genre de choses. Et puis, je commence lentement à travailler sur le prochain album qui pourrait à nouveau me m'amener aux États-Unis.
Très bien. Dernière question. Et là, ça va être vraiment la question ouverte par excellence. Si tu avais quelque chose à dire aux auditeurs de Sweet Home Chicago sur le 666, un petit message à faire passer, quelque chose que tu as envie de leur dire ou que j'aurais oublié de te demander, ça serait quoi?
Je dirais toujours qu'on fait tous partie de ces personnes qui disent « In blues, we trust ».
Ah, bien. bien, très bonne conclusion. Merci beaucoup pour tout ça, Kid Colling. On vient de faire, pour certains de l'autre côté du poste, la découverte de ton univers musical. Et on va rappeler le titre de ton dernier album, Living on the Wild Side, c'est bien ça? Comment faire pour se procurer cet album?
Eh bien, soit via le Dixie Frog Rock'n'Roll, soit Rock'n'Roll par Dixie Frog sur Internet, ou soit via mon site, ou éventuellement chez le disquaire de votre coin.
Très bien. Kid Colling, merci beaucoup. Et puis, j'espère on va se croiser à nouveau sur la route du blues et puis pouvoir se parler en live. Ça pourrait être très, très sympa. Je te souhaite que tous les projets que tu nourris puissent voir le jour. Et puis, encore merci pour cette belle interview. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Marc. Ça me ferait plaisir de te rencontrer aussi en live une fois en vrai. Ce serait vraiment cool.
Très bien. Merci. À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était cette interview de Kid Colling avec plusieurs extraits de sa discographie. El Gato, All Night Long, In the Devil's Court, Don't Worry Mama, Living on the Wild Side. Et on vient d'écouter Step Out of Line. Et puis, on a eu quelques extraits musicaux également. Luther Allison avec Little Red Rooster, Live in Montreux. Et puis, Big Boss Man par B.B. King sur l'album Six Silver Strings. Vous savez, celui où il imite Michael Jackson. Voilà, c'est pratiquement l'heure de se quitter. Mais on va terminer avec la rubrique 50 Years After qui passe en deuxième heure exceptionnellement aujourd'hui avec Take 5. Il s'agit de Hound Dog Taylor.
Take five.
C'était Hound Dog Taylor, Take 5 sur l'album Natural Buggy chez Alligator Records. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye.